Bonjour à chacun, à chacune qui est dans cette salle ou derrière son écran. Je vous souhaite la bienvenue à vous qui écoutez le culte depuis des années ou vous qui nous rejoignez pour la première fois. Je laisse la place à Mathieu et à son équipe pour le chant, pour un chant, et puis je vous rappelle juste de ne pas chanter, sauf à ceux qui sont derrière l'écran. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore vraiment. Je m'appelle Mélodie, je viens à l'église de Mérin depuis 5 ans. Je suis née dans une famille chrétienne, j'y vais à l'église depuis ma naissance. Je me suis fait baptiser à l'âge de 14 ans. Quand j'étais enfant, je voyais beaucoup mes grands-parents, surtout les paternels. J'avais la chance, parce que ma grand-maman elle venait à l'église, la même que moi, alors comme mon grand-papa, il allait à l'église de la Pélisserie. Elle s'occupait régulièrement de mettre les fleurs à l'église, de préparer la Sainte Cène et s'occupait de beaucoup de choses. À la fin du culte, on allait souvent manger chez eux. J'ai des souvenirs des très très bons moments de partage et surtout pendant mon adolescence qui était assez compliquée. Elle a été très présente, elle nous a toujours montré son amour, même quand elle a dû prendre la place de ma maman pendant ses hospitalisations. Ma grand-maman, elle a beaucoup prié pour mes sœurs et pour moi. Et je lui suis vraiment reconnaissante, car dans les périodes plus difficiles de ma vie, j'ai toujours décidé de suivre Jésus. Elle a été un véritable exemple de foi pour moi. Je désire remercier et encourager tous les grands-parents qui prient régulièrement pour leurs petits-enfants. Chaque enfant fait ses propres choix. Mais les graines qui sont plantées dans le cœur de ses enfants, personne ne peut les enlever. J'aimerais vous laisser ce verset de 2 Jean 1, verset 5. Aimons-nous les uns les autres. Je désire maintenant avoir un moment de prière communautaire. Donc, je vais commencer par prier et puis après, je vous laisserai suivre si quelques-uns désirent prier après moi. Merci Seigneur Jésus pour ce moment où nous pouvons être rassemblés. Merci pour la technologie qui nous permet de garder contact, même à distance. Et merci parce que tu es là, chaque dimanche, avec nous, qu'on soit à l'église et dans la semaine à la maison. Merci pour ta présence. Amen. vais prier pour Philippe. Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment te dire merci pour Philippe, pour tout ce qu'il a à nous apporter aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus parce que tu veux mettre vraiment tes paroles dans sa bouche pour nous bénir chacun, tout particulièrement. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es et pour tout ce que tu as à nous apporter aujourd'hui. En ton nom, amen.
Bonjour à chacun, chacune. Heureux de vous retrouver ce matin. Bonjour à vous, derrière votre écran. J'espère que vous êtes confortablement installés pour la suite de ce culte. Tu as parlé d'une grand-maman qui me fait penser aux miennes, qui me fait penser à une grand-maman parmi nous, qui a fêté, qui a soufflé une nouvelle bougie le 24 décembre. Félicitations, Nathalie, et un joyeux anniversaire à toi. D'autres ont eu leur anniversaire cette semaine. Marie-Thérèse, Philippe aussi cette semaine. C'est pas vrai. Oh là là. Alors, félicitations à Marie-Thérèse et puis à Philippe et un bon anniversaire à vous, mes frères et sœurs. Et Zéna, mais bien sûr, Zéna aussi le 25, c'est juste, hein. Fêter son anniversaire, son premier anniversaire. Il y en a peu parmi nous qui n'ont pas encore fêté leur premier anniversaire, mais il y a un petit Noah, tout bien serré contre sa maman Elisabeth, aux côtés de Nakia, sa grande sœur, et de Lamech, son papa. Vous voulez vous lever juste, les amis ? Alors désolé pour vous qui nous regardez derrière l'écran, vous ne les verrez pas, mais... Alors, félicitations, félicitations. Il est arrivé un petit peu en avance, hein, Noah. 6 semaines en avance, mais vous avez pu vous retrouver pour Noël et fêter Noël ensemble.
Oui, oui.
Gloire à Dieu. Super, super. Il y a eu quelques naissances, donc, dans l'Église ces 12, 13 derniers mois. Nathan Perrin, il y a un petit peu plus d'une année, alors lui a soufflé son premier Noël. Il y a quelques mois, Néhémie Scherer a vu le jour. Et puis il y a 6 semaines, Noah. Une naissance. Une naissance. C'est le phénomène le plus naturel du monde. Et pourtant, on ne s'y habitue pas. Un petit être paraît, grimace, il pleure, il a besoin de nous, et nous parlons volontiers de miracles. C'est parce que le don de la vie nous émeut profondément. Et même quand ce don de la vie parfois est repris, on se rappelle de ce que ça a impliqué. Le don de la vie est quelque chose qui nous émeut profondément. Et un peu de ça à Noël. Un bébé fragile et autour de lui des adultes ébahis. Mais à Noël, on ne va pas seulement parler du don de la vie. On va aussi évoquer un miracle divin. Et je vais prendre pour notre méditation sur ce thème du miracle divin une petite lettre du Nouveau Testament, toute petite. La deuxième épître, la deuxième lettre de Jean. Jean, nous le savons, c'est d'abord l'apôtre Jean, l'auteur du quatrième évangile, probablement le dernier livre écrit dans le canon du Nouveau Testament. Et puis il est l'auteur d'autres lettres, dont 2 Jean, et puis bien sûr l'auteur du livre de l'Apocalypse. Ici, comme nous allons l'écouter, le découvrir, il écrit, alors il y a des discussions là autour, il écrit à une dame qui s'appelle Kyria, la dame élue, la dame que Dieu a choisie. Alors certains pensent qu'il écrit vraiment à cette dame, pasteur, ou alors d'autres disent, en fait la dame, il faut y voir une église. Ce serait la seule occurrence de toute la Bible où une église serait appelée une dame, mais enfin bon, je vous laisse trancher pour vous, j'essaie de trancher pour moi. Mais le plus important, il n'est pas là, il est dans ce que Jean écrit à cette dame élue, à Kyria, que ce soit une personne en chair et en os, ou que ce soit une communauté chrétienne. Et nous allons découvrir que Jean va pointer le danger que représenterait pour Kyria, pour cette église ou pour cette femme, des visiteurs qui viendraient réfuter, qui viendraient refuser, qui viendraient combattre le miracle de Noël. Et je vous invite à écouter la lecture que Mélodie va nous faire maintenant de la deuxième lettre de Jean.
De la part de l'ancien à la dame choisie par Dieu et à ses enfants, que j'aime en toute vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité, parce que la vérité demeure en nous et sera avec nous pour toujours. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous accordent la grâce, le pardon et la paix pour que nous en vivions dans la vérité et l'amour. J'ai été très heureux de constater que certains de tes enfants vivent dans la vérité, comme le Père nous l'a commandé. Et maintenant, voici que je te demande, chère dame, aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que j'ai écrit, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le commandement que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est en cela que se révèle l'imposteur, l'adversaire du Christ. Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais que vous receviez pleinement votre récompense. Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer, car celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère ne pas les mettre par écrit, avec papier et encre. J'espère me rendre chez vous afin de vous parler personnellement, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, choisis par Dieu, elles aussi t'adressent leurs salutations.
Si vous avez une Bible papier ou sur smartphone sous les yeux, vous avez peut-être remarqué le nombre de fois que le mot « vérité » apparaît ici. Regardez les 4 premiers versets. 5 fois dans les 4 premiers versets, le mot vérité. On pense souvent qu'une église doit être un lieu d'amour. Mélodie nous l'a rappelé. Jean nous le rappelle. On a raison de penser que l'église doit être un lieu d'amour. Mais Jean nous dit aussi qu'une église doit être un lieu de vérité. Il dit qu'il faut aimer dans la vérité, qu'il faut connaître la vérité, qu'il faut vivre selon la vérité. Autrement dit, le mensonge, l'hypocrisie, la cachotterie, l'esquive, la fuite, le refus de communiquer, le silence, c'est le contraire de l'amour. Il n'y a pas de communion s'il n'y a pas de vérité entre les membres. Mais Jean pense encore ici à une autre dimension de la vérité. Il pense à ce qui nous unit par-dessus tout, c'est-à-dire notre adhésion à la vérité révélée en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir, et nous avons, des différences sur un tas de questions. Mais si nous ne croyons pas au même Christ, né dans ce monde, mort à la croix, ressuscité et qui reviendra, alors nous n'avons pas de foi commune et nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres. Il nous restera toujours l'amitié en Adam, qui a toute son importance, mais il n'y a pas de solidarité en Christ. Ce qui fait notre solidarité en Christ, ce qui fait de nous des frères et sœurs en Christ, c'est notre adhésion à la vérité révélée en Christ. Né dans ce monde, mort à la croix, ressuscité et qui reviendra. Le monde scientifique est habitué à dire que telle proposition est vraie et que telle autre proposition est fausse. Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de science ou de maths, mais par exemple, le monde scientifique a acté, n'en déplaise à certains, que le monde n'est pas plat, que la Terre est ronde. C'est une vérité scientifique. La science, sauf erreur de ma part, a décrété, avec multiples calculs que je ne pourrais pas vous rendre comme ça, allez voir Sylvain, mais que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Ou encore que 701 est un nombre premier. Mais en dehors du monde scientifique, les gens sont assez mal à l'aise avec la notion de vérité. Je pense que cette saison particulière, ce deuxième semestre qui a vu naître certaines théories farfelues, nous montre que même confronté à la vérité, on peut s'inventer des mondes parallèles. À chacun sa vérité, dit-on. Parce qu'on n'a pas envie de contredire qui que ce soit, parce qu'on préfère être tolérant. La difficulté, c'est que la vérité, selon l'Écriture, ne tolère pas facilement l'erreur. Est-ce que Jésus est mort sur la croix ? Si vous dites oui à cette question, si vous dites oui, Jésus est mort sur la croix, vous rejetez dans l'erreur des dizaines de millions de musulmans, des dizaines de millions de bouddhistes, des dizaines de millions d'hindouiste. Est-ce que Jésus est mort sur la croix? Si vous dites non, vous rejetez dans l'erreur des millions de chrétiens. Si vous dites que Jésus n'est pas mort sur la croix, vous rejetez dans l'erreur des millions de chrétiens. Alors, l'homme moderne, femme moderne, préfère ne rien dire, ne rien choisir, ne rien affirmer comme vérité pour surtout ne pas trop choquer. Mais l'apôtre Jean, lui, en tout cas dans cette lettre-là et ailleurs, pense que la vérité est importante. Il écrit notre petite lettre parce que la vérité se trouve menacée au sein même des chrétiens. Lui n'écrit pas à des musulmans, à des bouddhistes ou à des hindouistes, il n'écrit même pas à des athées, il écrit à des chrétiens, soit à une femme chrétienne, soit à une église. La vérité est menacée. Par qui la vérité est menacée? Au verset 7, par un grand nombre de personnes qui sont littéralement sorties dans le monde, c'est-à-dire qui sont parties en mission dans le monde. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus-Christ est réellement devenu homme. C'est à cela que l'on reconnaît l'imposteur, l'adversaire du Christ. L'imposteur, c'est donc pour Jean celui qui refuse de croire que Jésus est devenu homme. Et dans le contexte de notre lettre ici, des gens qui ont donc des liens très étroits avec des églises chrétiennes. Des liens très étroits au point que ces gens continuent à les fréquenter et qui viennent y apporter dans ces églises chrétiennes des contre-vérités. Ils ne sont pas restés attachés à l'enseignement de Christ. Ils sont allés plus loin, trop loin, et ils agissent, selon Jean, actuellement comme des antichrists. Waouh, le mot est lâché, des antichrists. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de si grave pour qu'on dise « c'est des antichrists » Eh bien, verset 7, « ils ne reconnaissent pas que Jésus est devenu véritablement un être humain. » Si vous avez une vieille traduction sur les genoux qui parle de Jésus-Christ venu dans la chair, c'est ça que ça veut dire. Jésus-Christ est venu en chair et en os comme un véritable être humain et ces gens ne le reconnaissent pas. C'est étrange pour nous, hein ? Des gens qui ne reconnaissent pas que Jésus est venu en chair et en os. Aujourd'hui, dans notre contexte, ce que l'on nie plutôt, ce que l'on combat plutôt, c'est la divinité du Christ. Nos contemporains contestent que Jésus soit Dieu. Mais à l'époque de Jean, probablement l'an 90, ici, l'an 90, les gens étaient tellement impressionnés par les miracles du Christ qui restaient en mémoire, on est 50, 60 ans après. Les gens étaient tellement impressionnés par les miracles, tellement impressionnés par la résurrection qui restait dans leur génération, qu'ils admettaient volontiers chez lui le côté surnaturel. Le côté surnaturel du Christ ne posait pas tellement de problèmes. Il faisait des miracles, bien sûr. Il était ressuscité, oui. Les uns disaient qu'il faisait de la magie avec l'aide de Satan. Les autres disaient qu'il était comme une sorte d'ange puissant qu'aucune souffrance humaine ne pouvait venir déstabiliser. Et d'autres disaient encore, il est fils de Dieu. Un homme, mais non. Il avait des pouvoirs qui ne sont pas de ce monde. Et les antichrists de deux Jean ne reconnaissent donc pas la véritable humanité de Jésus. Ils disent que Christ avait peut-être l'air d'un humain, mais qu'il ne pouvait pas être touché par la fatigue, il ne pouvait pas être touché par la faim ou par la soif, puis il ne pouvait pas mourir. qu'à la croix, Jésus s'était contenté d'abandonner son déguisement d'homme, mais que le Christ, le vrai, n'était pas mort, qu'il ne pouvait pas mourir. Et ces idées-là, elles commencent à se répandre tout à la fin du premier siècle. Elles sont reprises dans un document de la fin du deuxième siècle qui s'appelle l'Évangile de Judas. Et c'est repris aussi dans la plupart d'autres écrits apocryphes de la même époque. Jésus n'était pas vraiment un homme. C'est aussi des idées qui sont à l'origine du Coran, comme quoi Jésus n'est pas mort à la croix. La Bible, elle dit quoi ? Que oui, la divinité de Christ saute aux yeux, bien sûr. Lui-même a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Mais la Bible enseigne aussi son humanité. La parole a été faite chair. Jean 1, 14. Autrement dit, l'intelligence éternelle est devenue un homme, un être humain, un vrai de chez vrai. Et d'abord, un bébé qui grimace et qui pleure. Le miracle que nous fêtons à Noël, ce n'est pas le miracle que vivent les parents de n'importe quel petit enfant. Ce n'est même pas le fait que Marie ait conçu cet enfant de façon surnaturelle, sans l'aide d'aucun autre homme. Ce que nous fêtons à Noël, c'est le fait que l'enfant existait avant. Autrement, avant Abraham, au commencement, avec Dieu, étant Dieu lui-même, existant depuis toujours en tant que Dieu, il est entré dans la vie humaine pour vivre la naissance, l'enfance, l'adolescence, la vie et la mort des hommes. Il est venu en toute solidarité. Il a vécu en tant qu'être humain comme nous pour nous sauver, quittant la gloire de son ciel. Si Jésus-Christ n'est pas un homme, qui est-ce qui est mort pour nous alors ? Un fantôme, un ange. La Bible enseigne que Jésus-Christ a donné sa vie pour ses frères et sœurs. Pour ses frères et sœurs. Une vie parfaite, certes, mais une vie comme la nôtre. Et c'est là la vérité que Jean voulait défendre. Il va même jusqu'à dire au verset 9 que quand on n'a pas la bonne doctrine concernant le Fils, on ne l'a pas non plus concernant le Père. Quand nous avons Jésus-Christ, le vrai, nous sommes en même temps en communion avec Dieu le Père. Jésus-Christ est venu nous rendre Dieu amis. Et voilà donc que des missionnaires aux allures très chrétiennes parcourent les grandes routes romaines de l'Asie mineure pour enseigner le contraire de ça. Les auberges sont assez mal famées, alors ces missionnaires vont chercher à être accueillis dans des églises, dans des familles, pour prêcher, dans des maisons chrétiennes, pour se loger. Ce sera plus sûr, moins cher, et une porte d'entrée dans les églises. Est-ce qu'il faut les encourager ? Est-ce qu'il faut les accueillir ? Est-ce qu'il faut se montrer tolérant, bienveillant, complaisant ? Sûrement pas, versets 10 et 11. Jean dit que si ces gens-là se pointent le dimanche matin dans la maison où se réunit l'Église, alors il ne faut pas les honorer, il ne faut pas les saluer, il ne faut pas les accueillir, il ne faut pas leur donner la parole. S'ils se pointent dans une maison chrétienne, les règles habituelles de l'hospitalité ne s'appliquent pas, les chrétiens n'ont aucune obligation à leur égard. Les chrétiens ne peuvent pas, ne doivent pas faciliter une entreprise de tromperie, le mot est dit, une entreprise de destruction de la vérité. Les chrétiens chérissent la vérité et ne veulent pas la voir anéantie. Ça correspondrait à quoi de nos jours ? Ben, je pense que cela implique pour nous d'être vigilants par rapport à tout ce que nous pouvons capter sur Internet, dans des livres, même dans des prédications. Beaucoup de gens se réclament de l'Évangile, mais tous ne l'enseignent pas fidèlement. Tous n'y croient pas vraiment. Pour certaines choses, on ne va pas en faire une montagne. Mais quand cela touche au cœur de l'Évangile, il me semble que nous devons être fermes et ne pas contribuer à diffuser des erreurs sous prétexte que les autres sont sincères ou zélés ou chrétiens comme nous. Et comment est-ce qu'on discerne alors le vrai du faux ? Mais il me semble qu'on discerne le vrai du faux par une connaissance toujours plus affûtée de la Bible. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous faisons la promotion de la lecture de la Bible. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous proposons des aides, des calendriers de lecture, des formations comme le Free College, et j'espère bientôt de nouveau des ateliers bibliques la saison prochaine. Maintenant, si vous êtes comme moi, ou si vous avez les mêmes genres d'amis que moi, vous entendrez parfois que dans les familles, vos amis ou vous peut-être, comme chez nous, on a des gens qui militent pour des idées très bizarres, voire sectaires. Je ne parle pas du vieil oncle qui, à la fin du 8e Armagnac, a un peu de peine. Et je parle de ceux qui, diffusent des trucs vraiment bizarres, voire sectaires. Est-ce que l'apôtre Jean nous interdit de saluer des membres de notre propre famille ? Je ne crois pas. Jean pense surtout à l'accueil officiel de prédicateurs itinérants dans nos églises. Au moment où Jean écrit, il n'y a pas de bâtiment spécifiquement consacré à la vie d'église. Les chrétiens, ils se réunissent dans des maisons, là où il y a une salle suffisamment grande. Et dans ces maisons-là, les faux missionnaires ne sont pas les bienvenus. Mais en famille, les règles de l'hospitalité vont jouer. Tout le monde comprend que si un membre de notre famille en abusait pour détruire l'Église, notre relation deviendrait difficile. J'ai dit que dans les premiers versets, le mot « vérité » apparaît 5 fois. Et toujours dans ces premiers versets, les mots « amour » et « aimer » apparaissent 6 fois. C'est que souvent, toujours, l'amour et la vérité sont liés. L'apôtre aime la dame élue et ses enfants, et il les aime dans la vérité. Verset 1. La grâce de Dieu fera que nous vivions dans la vérité et dans l'amour. Verset 3. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Verset 6, c'est-à-dire selon la vérité de Dieu. Il n'y a donc pas de contradiction entre l'amour et la vérité. Nous pouvons bien être en désaccord avec quelqu'un, désapprouver ses choix religieux ou même ses orientations de vie. On peut combattre ses idées sans jamais cesser de l'aimer. Parce que pour dire un désaccord, il faut aimer. Parce que si on n'aime pas les gens, eh ben on s'en fout de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent. Ce sont des étrangers pour nous et nous les ignorons souverainement. Quand nous nous soucions du bien des autres, nous leur parlons. Et parfois, nous utilisons des mots. Et si nous voulons que nos paroles ou nos gestes soient entendus, alors nous y mettons les formes. Nous ne parlerons pas pour vider notre sac, nous ne parlerons pas pour soulager notre conscience, nous ne parlerons pas pour ouvrir une soupape de sécurité. Nous parlerons pour être entendu, pour être écouté, pour garder l'amitié, pour gagner la personne. Et ce sera seulement devant des propagandistes convaincus que nous mettrons des barrières. Dans la crèche de Noël, l'enfant Jésus n'a pas d'auréole. Ses parents non plus. L'étable, elle est certainement imprégnée de l'odeur des animaux. Tout est précaire. L'enfant a besoin de ses parents. Jésus doit apprendre à digérer, comme il devra apprendre à marcher, à parler, à partager. L'enfant Jésus ne lève pas la main pour bénir le monde. Il grimace et il pleure, comme n'importe quel autre bébé. L'apôtre Paul dit à sa manière comment et pourquoi Jésus est venu. Philippiens 2, 6 à 8. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Dans la paille de la crèche se cachait donc déjà une épine. Quand nous comprenons cela, Jésus-Christ venu en véritable homme, Jésus-Christ venu en vue de la croix, alors nous pouvons prendre à notre compte la suite du texte de Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu notre Père. Amen.
Nous touchons gentiment à la fin du culte. Nous allons encore avoir deux annonces par Eric, puis la bénédiction dite par Philippe. Suite à ça, nous allons encore écouter un chant, et pendant ce chant, nous pourrons quitter la salle.
Merci Paul Robert. Merci Mélodie pour cette première présidence. On remettra l'ouvrage sur le métier, hein, si vous voulez bien. Merci à l'équipe technique, à la super équipe musicale qui est intervenue ce matin aussi, à l'équipe d'accueil. Nous retrouvons aussi dimanche prochain. Le culte sera animé par Célina. Je vous laisse avec cette bénédiction de 2 Jean au verset 3. Et je vous invite à vous lever. Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donneront la grâce, la bonté et la paix pour que nous vivions dans la vérité et dans l'amour. Que le Seigneur nous soit en aide pour le vivre très concrètement dans les jours, les semaines qui viennent. Allez en paix, dans la joie. Je souhaite une belle semaine et que la paix du Christ repose sur chacun, sur chacune. Nous pouvons encore écouter ce dernier chant avec une petite surprise, sauf erreur, à la fin du chant, puisque vous y verrez apparaître, chose rare, un footballeur de renom. Je vous invite à vous asseoir pour écouter ce chant.
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14.